France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Quentin Péchard, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer et Loïc Antoine, réalisée par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Nicolas Leroulet. Comme chaque semaine, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Le retour de terrain, la journaliste Hélène Ferrarini revient du Bhoutan. Dans son reportage pour Le Monde Diplomatique, elle raconte comment ce pays, connu pour avoir instauré l'indice de bonheur national brut, le BNB, est aujourd'hui confronté au désir d'émigration de sa jeunesse. Et puis, dans la table ronde d'actualité, nous reviendrons sur le divorce entre les États-Unis et l'Europe. Dans un document publié début décembre, Washington a menacé une fois de plus de se désengager du continent, mais aussi de soutenir les partis nationalistes compatibles avec les valeurs trumpistes. Les États-Unis en croisade contre l'Europe, nous en discuterons avec nos invités. Célia Belin, directrice du bureau français du Conseil européen pour les relations internationales, un groupe de réflexion sur la politique étrangère européenne, autrice de « Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump », c'est paru aux éditions Fayard. Et puis nous serons également avec Maud Kessar, directrice de recherche Europe, espace transatlantique, Russie, à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et qui est l'autrice de l'étude « La puissance sans principe géopolitique du Trumpisme ». Une discussion co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Hélène Ferrarini.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante. Le Bhoutan, où vous vous êtes rendue pour Le Monde Diplomatique, est un pays dont on parle rarement, ou alors seulement pour raconter comment il a gagné le surnom de « pays du bonheur » en instaurant dans les années 2000 un indice de bonheur national brut, le BNB, qui devient la boussole des politiques publiques dans les années 2000. Et de fait, au Bhoutan, environ 800 000 habitants, l'éducation et la santé sont gratuits, le taux d'inégalité relativement faible et l'empreinte carbone négative. Et pourtant, la jeunesse n'a jamais été aussi désireuse de partir étudier, travailler et rester à l'étranger. Une émigration massive qui inquiète les autorités. Hélène Ferrarini, pour quelles raisons les habitants du Bhoutan désirent-ils quitter le pays ? Qui sont ces candidats à l'exil ?
Alors, tout d'abord, je vais préciser ce qu'on qualifie de massif pour parler de cette émigration. En 2023, c'est 1,5% de la population qui est partie étudier et travailler en Australie. Alors, par rapport aux 800 000 habitants du Bhoutan, ce sont quelques milliers de personnes. Mais si on ramène ça à la population française, par exemple, ça serait 1 million de personnes qui auraient quitté le pays en seulement un an. Et ça se répète d'année en année. Alors, ils partent avec des visas étudiants, donc principalement pour étudier, officiellement pour étudier, mais certains m'ont confié qu'en fait, ils trouvaient des formations qui les intéressaient finalement peu, mais que c'était une émigration de travail qui les attirait, notamment en Australie. Et les personnes qui partent sur visa étudiant avec la réelle volonté de se former, d'obtenir des licences, des masters, restent la plupart du temps et convertissent leur visa en visa de transit, visa de travail, au point que c'est devenu un véritable problème pour le pays. Parce que c'est principalement la jeunesse qui part, donc les gens qui pourraient participer à la solidarité nationale en payant des cotisations, par exemple, et sont aussi les personnes qui pourraient faire des enfants et renouveler la population.
Le Premier ministre que vous rencontrez, Tshering Togbay, lui vous parle très concrètement de crise existentielle. C'est comme ça qu'il qualifie ce phénomène migratoire. Il craint littéralement que son pays se vide. Mais il faut préciser que l'émigration étudiantine, elle n'est pas nouvelle au Bhoutan. Elle a même été encouragée par le gouvernement via des bourses gouvernementales, à condition qu'ensuite on revienne au pays. Or, ce cadre-là c'est pas qu'il n'existe plus, mais en tout cas maintenant on part en dehors de ce système de bourse.
Voilà, ce cadre-là maintenant il est largement minoritaire, c'est-à-dire que jusqu'à il y a une quinzaine d'années, les Bhoutanais et Bhoutanaises n'avaient pas les moyens d'émigrer, donc certains d'entre eux avaient la chance de bénéficier de bourses royales, de bourses gouvernementales, et qui leur permettaient d'aller se former. L'idée c'était d'aller acquérir des compétences à l'étranger, le pays étant un tout petit pays peu doté en université, et ensuite de revenir et mettre au service du pays et de son développement, ses compétences acquises à l'étranger. Mais maintenant, environ 90% de celles et ceux qui partent le font sur leurs fonds propres en contractant des prêts et donc n'ont pas d'obligation de remboursement ou de... Enfin, de remboursement en tout cas vis-à-vis de l'État et donc d'obligation de retour. Et c'est bien ça qui inquiète les autorités, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prise publique, étatique sur cette jeunesse qui part et qui pourrait bien décider de rester notamment en Australie et faire sa vie.
Le paradoxe au Bhoutan, c'est que, je le disais tout à l'heure, le pays affiche un niveau de développement relativement satisfaisant, en tout cas qui a énormément progressé en quelques décennies, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'accès à la santé, une éducation de grande qualité. Vous décrivez le niveau d'anglais notamment des étudiants, une couverture numérique très performante, un environnement préservé, etc. Alors que fuient les jeunes Bhoutanais et Bhoutanaises ?
Il y a un manque d'emplois, notamment dans le secteur privé. Les emplois publics sont très recherchés, mais aujourd'hui tous les postes sont pris. Donc voilà, il y a peu de place de ce côté-là. D'ailleurs, les emplois publics payent relativement peu. C'est ce qui m'a été confié. Souvent, en fait, les fonctionnaires vont cumuler les jobs, c'est-à-dire avoir leur emploi public et puis en parallèle mener des activités privées pour arrondir leur fin de mois. Et le secteur privé est quand même relativement faible. Et donc il y a un réel manque d'emplois et notamment d'emplois qualifiés. Et c'est ce que dit le Premier ministre. Il considère que cette émigration massive, c'est presque un effet collatéral de cette politique de développement basée sur le bonheur national brut. C'est-à-dire que le Bhoutan a désormais une population en bonne santé, diplômée, anglophone. Le pays jouit d'un critère dans l'immigration australienne qui est meilleur que celui du Népal, par exemple. Donc c'est relativement facile d'y entrer. Et en fait, la jeunesse va chercher des opportunités et la possibilité aussi d'avoir cette exposition à l'étranger.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment cette idée de créer un indice de bonheur plutôt qu'un indice de richesse, comme ça, cela se fait partout ailleurs, a vu le jour au Bhoutan ?
Je pense que c'est presque ça a presque été inventé de manière... C'est un peu sorti du chapeau du quatrième droit au tout début des années 70 où il était interrogé par la presse. Donc c'était sur le tarmac d'un aéroport et il revenait de Cuba, d'un sommet international, et il a été interrogé sur le PIB de son pays. Et je pense qu'il était dans l'incapacité de donner un montant, parce qu'à cette époque-là, les statistiques nationales au public, au Bhoutan n'existaient pas. Enfin, il n'y avait pas ces données-là. Et donc, il a répondu que lui s'intéressait pas tellement à cette question du PIB, mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était le bonheur, le bien-être de son peuple. Et ensuite, au début des années 2000, des penseurs, des fonctionnaires bhoutanais se sont mis à construire un indice, voilà, à déployer cette pensée du quatrième roi pour la convertir en statistique, en politique publique.
Oui, c'est important de préciser que ce n'est pas qu'une image, même si cette image a été utilisée pour promouvoir le Bhoutan sur la scène internationale. En interne, donc il y a une commission du BNB, même si récemment elle a été fragmentée, mais il y a une commission avec tout un tas de critères d'évaluation très précises et des piliers qui fondent cette idée du bonheur dans la politique publique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ces piliers ?
Oui. Alors, les piliers, il y en a quatre. Donc, il y a bien sûr la croissance économique, hein, c'est pas exclu, la bonne gouvernance, la promotion de la culture et la préservation de l'environnement. Donc, ça, c'est les quatre piliers. Puis ensuite, ça a été décliné, ça a été très bien travaillé par de nombreux indices, des questions qui peuvent paraître un peu atypiques, mais quel est le taux d'équipement d'un foyer ? Est-ce que vous avez un frigo, un téléviseur ? Mais quel est votre ratio de temps de travail, temps de loisir ? Combien de temps est-ce que vous passez en famille ? Ou est-ce que vous avez du temps que vous accordez à la spiritualité ? Donc avec tous ces éléments, ils ont construit un indice qui permet d'évaluer le bien-être de la population.
et cette priorité au bien-être pour le voyageur extérieur qui arrive au Bhoutan, est-ce qu'elle est perceptible ?
Je dirais qu'il y a eu un emballement médiatique à l'international, parce que le bonheur, c'est pas rien. Ils ont trouvé quelque chose qui parle à tout le monde et qui est assez fascinant. L'environnement est très préservé, la culture est toujours fortement ancrée. Ça, c'est des choses qu'on peut voir sans difficulté quand on circule dans le pays. Mais il y a aussi des réalités qui sont tout autres. Et je pense qu'à un moment, le bonheur national brut, ça a aussi été très utile pour le Bhoutan, pour exister sur la scène internationale. Parce que ça, c'est une des grosses problématiques de ce pays. Rappelons-le, 800 000 habitants, moins d'un million, coincés entre l'Inde et la Chine. Donc, il faut pouvoir exister avec la question de la souveraineté de ce pays qui jusqu'aux années 70, c'était pas, et même encore plus récemment, était pas si clair. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une forte tutelle de l'Inde. Et donc, je pense qu'avec le bonheur national brut qui a à la fois été réellement appliqué pour développer le pays et amener comme ça la population à un meilleur niveau de confort, de satisfaction des besoins, ça a aussi été utilisé sur la scène internationale.
Je reviens encore un instant sur la compréhension du comment ces politiques publiques ont pu façonner le pays. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi un petit mot de la capitale Thimphu vous décrivez une ville très calme, et j'avais envie de savoir ce que ça signifie qu'une capitale très calme.
Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a une circulation qui est encore relativement faible, et puis on la compare avec les autres villes de la sous-région, du sous-continent indien, qui elles sont bouillonnantes. C'est une ville qui reste assez peu peuplé, 150 000 habitants, des immeubles qui respectent les critères esthétiques traditionnels de l'architecture bhoutanaise, des parcs, les coteaux sont toujours boisés. Donc voilà, c'est ce type d'espace. On peut y marcher à pied, beaucoup de gens portent l'habit traditionnel. Voilà, c'est un espace qui est agréable. Et puis c'est à 2000 mètres d'altitude, donc il y a aussi un air qui est peu pollué. Comparé voilà, à l'Inde voisine ou au Bangladesh qui n'est pas très loin, c'est notable.
Et malgré tout cela, eh bien, on le disait, la jeunesse est désireuse de partir, et je ne sais pas si cela a un lien, mais vous expliquez aussi comment les autorités bhoutanaises se posent des questions sur ce fameux modèle de développement. En 2022, la commission du bonheur a été dissoute et un plan quinquennal 2024-2029 a été mis en place. Ce plan fixe des objectifs de croissance, et cette fois on parle bien de PIB au sens très classique du terme. Est-ce que le Bhoutan est peu à peu en train d'abandonner cet indicateur de bonheur et revenir à un modèle plus classique ?
Oui, je pense qu'en termes de politique intérieure, c'est évident qu'il y a une prise de distance qui est faite, même si officiellement dans les discours, c'est toujours inscrit dans la Constitution, ça reste un phare pour les politiques publiques, je dirais officiellement. Mais dans les faits, la dissolution de cette commission est un signe. Mais je sens qu'au Bhoutan, aujourd'hui, il y a presque une lassitude de cet indice qui a fait venir des gens. Il y a eu une forte curiosité internationale, mais les problématiques, elles sont autres. Et on sent aussi que cet indice a peut-être atteint ses limites. Certes, le pays, du coup, a quitté le statut de pays moins avancé, désormais considéré comme un pays en voie de développement. Les indicateurs sont relativement... Enfin, voilà, sont bons, s'améliorent d'année en année. Donc ça a été permis par le bonheur national brut, mais il reste encore tellement à faire, et c'est pas un pays qui va s'arrêter là, en fait. Il peut pas se le permettre.
D'ailleurs, en 2023, le roi Jigme Khyentse Wangchuck a annoncé la création d'une zone administrative spéciale. On l'appelle aussi le projet GMC, Gelefu Mindfulness City. Et les modèles qui sont cités pour ce projet de cité, eh bien, ce sont Singapour et Abu Dhabi. Donc on voit bien qu'on est là à l'opposé du modèle que vous décriviez. De quoi s'agit-il avec ce projet ?
Eh bien, c'est parti. Je pense que le capitalisme va pouvoir commencer à officier au Bhoutan. Toutefois, dans un espace restreint, qui est donc cette zone administrative spéciale, où il va y avoir une forte dérégulation, donc voilà, des systèmes législatifs, financiers, inspirés, comme vous l'avez dit, de pays du Golfe et de Singapour. Et l'objectif, donc c'est vraiment un projet royal du cinquième roi, ça va être le projet de son règne. Les objectifs, ils sont multiples. Réintéresser la jeunesse bhoutanaise, notamment celle qui a émigré au Bhoutan, créer des opportunités d'emploi, ça c'est quelque chose qui m'a été dit, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a quelques occidentaux européens qui occupent des postes au Bhoutan et à diplôme égal, poste égal, ils n'ont pas les mêmes salaires que les Bhoutanais. Ça, c'est des choses que les Bhoutanais m'ont confié et c'est quelque chose qui est inacceptable pour le pays. Et donc, ce qui m'a été dit, c'est qu'on espère qu'à Guélifou, les Bhoutanais et les Bhoutanaises auront les mêmes salaires que les Occidentaux. Donc voilà, des opportunités de travail. Et puis, bien sûr, pour le pays, c'est faire venir des capitaux parce que ça, c'est un de ces gros problèmes, en fait, une de ces grandes difficultés, faire venir des capitaux. Donc, raconter une histoire qui va peut-être être plus grande que ce qui va se faire réellement. Réellement, ce qui va se faire, c'est un aéroport international qui va en fait connecter le Bhoutan du Golfe à l'Australie, voilà, donc en passant par toute l'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est concret, c'est en train de se mettre en place. D'ailleurs, le premier vol international a lieu aujourd'hui. Une monnaie a été créée, une monnaie qui n'est pas celle du pays, qui n'est pas le Noltrum, c'est une monnaie digitale qui est adossée sur l'or. Donc voilà, en ce moment, c'est la période des infrastructures clés qui sont mises en place et les autorités, ceux qui portent ce projet de ville, espèrent qu'elle sera peuplée de peut-être 100 000 habitants d'ici 5 à 10 ans. Ça reste à voir. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place.
Mais pour créer de la richesse, à partir de quoi? Parce qu'on entend le projet d'attirer des investissements, de créer des emplois, mais sur la base de... Ce serait une place financière avant tout? Ou ce serait lié à un secteur d'activité proprement bhoutanais?
Alors, il y a différentes... secteurs qui sont listés par les promoteurs de cette ville, la spiritualité, les technologies. La spiritualité, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, ça s'appelle la ville de pleine conscience, mindfulness, comme vous l'avez dit. Donc ça, c'est quelque chose qui reste vraiment central pour le Bhoutan, avec la place du bouddhisme. Donc, c'est ce qui est décrit par les personnes qui souhaitent voir se développer cette ville, mais qui ait beaucoup de temples, que ce soit peut-être un lieu de retraite spirituelle. Bon, ça c'est un des piliers. Il y en a d'autres. Les technologies, tout ce qui est numérique. Donc cet aéroport qui, à mon avis, sera la chose la plus concrète et qui va advenir en premier. Puis voilà, comme ça d'autres éléments. Mais en fait, le Bhoutan a très peu de capitaux. Donc on a pu entendre parler de la taxe touristique qui est de plusieurs centaines de dollars par jour pour séjourner au Bhoutan. Ça a été une manière, et c'est toujours une manière d'attirer des capitaux, des dollars pour le pays. Récemment, le pays s'est mis à miner des bitcoins avec son énergie hydraulique. Donc, et on a revendu une certaine partie, pareil, ça lui a permis d'avoir des dollars, mais c'est pas suffisant. Donc là, en fait, c'est une sorte de grande tournée de séduction que mène le cinquième roi avec quelques alliés à l'international pour essayer de convaincre des grands financeurs internationaux de venir investir et construire cette ville.
Et derrière l'enjeu économique, il y a aussi un enjeu géopolitique. Vous le disiez, le Bhoutan est aujourd'hui un petit pays coincé entre les puissances indiennes et chinoises. Et justement, l'Inde a un rôle très important dans la politique intérieure et extérieure du Bhoutan depuis longtemps. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de tutelle? Et comment est-ce qu'aujourd'hui l'Inde voit ses projets de développement du Bhoutan?
Oui, on pouvait clairement parler d'une tutelle jusqu'en 2007, puisque il existait un traité entre l'Inde et le Bhoutan qui prévoyait que c'était New Delhi qui s'occupait, qui avait la main mise, on va dire, ou en tout cas un droit de regard sur les relations étrangères du Bhoutan. Donc le Bhoutan n'avait pas la pleine maîtrise, la pleine souveraineté de ses relations étrangères. Ça a été supprimé officiellement en 2007, mais officieusement, New Delhi reste un incontournable. Et ce qui... En fait, le Bhoutan doit composer avec des contraintes vraiment multiples et ce projet de ville de pleine conscience à Guélifou, c'est aussi une manière d'attirer des capitaux indiens tout en s'émancipant de la tutelle indienne. Donc c'est assez fin, c'est assez périlleux, mais encore une fois, le pays n'a pas vraiment le choix.
Merci beaucoup Hélène Ferrarini. Votre reportage « Pourquoi ces habitants fuient le Bhoutan, pays du bonheur ?» à lire dans le numéro du mois de décembre du Monde Diplomatique. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci d'être venu dans le Retour de Terrain.
Merci à vous.
« さ可愛いにな Go Jimmy ジャンドンとべなぞちゃんにみセンディーディージャンシュジャンにみなぱみつなかみつなぱみつなかみつなぱみつなかみつギャラビーツ情報のさヘイツガーリーピーツナムカプツエガチベルカチェショランギランロローテゴバチェチャミテオンチャミジャドバギョンサカミチゴミチェチェギティショニメジョンコメバデディチェギナチロゾニメコンギハミゴナガチラノドナザレティミショナチャルジーソドヘマガギヤマツミラナビニインガヤジョマツミサゴナナヘニインセムカシャディミセチラビニムチヤトラマベタゴゴジンドバハサロNo mo nye ni mi la be ni na do nye to de ni mi Sen ye ju ni mi na wu du ni mi La go tsu mi di na ju du ni i Jengi jap cho go mi poja rangi kama lo mi nye sem samurai Shiru mi nga do ni gam chi na do ru do ni nga No sam tami jubra jub ni lup ni a sen di Yara she ju ni Za ge di ra la be ni nga Nim chi di nga nga no mi sa Ka he ni nga go chi mi i Jam don to be na zu chap ni mi Sem di di i
Le rappeur bhoutanais Kezang Dorji, lauréat en 2018 du South Asia Youth Award pour son implication dans les œuvres sociales au Bhoutan. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission Actu du vendredi, direction à présent l'Europe.